Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bah, sommaire de cette émission, assez simplement, des livres qui ont retenu notre attention, qu'on a essayé d'illustrer avec des morceaux de musique qui correspondaient soit au livre, soit tout simplement à l'actualité qui nous intéresse. C'est moi qui commence, excusez-moi.
Je vais vous parler de
Tempête. Alors, avec les jours qui viennent de se passer, vu les quelques monceaux de vent qui ont balayé les différentes régions, c'est assez d'actualité. Mais moi, je ne vais même pas vous parler d'une tempête, mais de deux. Tempête au pluriel, c'est le nom du dernier roman d'André A. Michaud, auteur canadienne.
Tu nous as déjà parlé d'ailleurs d'un de ses romans, me semble-t-il.
Mais je vous avais parlé du premier roman qui était paru chez Rivage, aux éditions Rivage, qui s'appelait Bondré. Et dans ce livre, on avait été séduit par la langue, le style, l'atmosphère du roman. Et ici, de manière bien différente, l'atmosphère et le style nous ont aussi intéressés dans ce dernier, donc, qui s'appelle Tempête.
Et donc, elle est canadienne et elle écrit en français puisque...
Oui, il n'y a pas de traduction, elle écrit en français, dans une langue d'ailleurs où l'on sent les idiomes canadiens, on a presque de temps en temps un petit peu envie de prendre l'accent, même si ces romans, la plupart se passent dans le versant américain. Et justement, prenez un beau paysage américain, un paysage Cold Mountain, traduit en Le Massif Bleu, un décor de carte postale, de vacances en famille. André Michaud va en faire le décor de deux cauchemars. Au début du roman, dans la première partie, celui de Marie Saint-Onge, au début du printemps, d'un côté de la montagne, puis le cauchemar de Rick Dubois, à l'orée de l'été, sur l'autre versant. Premier acte, Marie s'installe dans une maison isolée dont elle a hérité. Tout de suite, le lecteur hume l'atmosphère, par exemple l'arrivée de la jeune femme dans sa maison, ça fait tout à fait penser au début de Shining, le film de Stanley Kubrick. Très vite, elle s'installe et les éléments se déchaînent. La neige tombe en abondance et surtout une silhouette rôde. Une ou plusieurs d'ailleurs, on ne sait pas, inquiétante, anxiogène, angoissante. Je cite, de pierre ou de marbre, un être dont la lourdeur ne pouvait être issue que de ces matériaux soutenant les temples et les montagnes. Marie a beau tenter la rationalité, des fois aussi un peu l'alcool, il faut bien le dire, donc cette rationalité, mais chaque moment, chaque endroit, la pousse vers une peur, une terreur, je dirais une terreur venue du plus profond des âges, extrême. J'ai toujours cru que les peurs qui ne se rattachent à aucun objet visible sont les plus subtiles et les plus tenaces. J'avais expérimenté ces peurs souterraines lorsque j'étais enfant et que les bruits ténus de la maison se métamorphosaient en souffles à peine audibles dans le fond de ma chambre. J'éprouvais le même type d'angoisse en me dirigeant vers le massif bleu. Or, ce n'est pas la lente respiration de la nuit qui m'oppressait, mais l'intuition que j'étais poursuivie par des chimères s'agrippant à un passé qui ne m'appartenait pas. Je savais depuis longtemps comment nous créons nos propres fantômes, comment ceux-ci nous hantent et nous pourrissent la vie jusqu'à ce que nous ayons le courage de retirer leur voile pour constater qu'il n'y a rien dessous, sinon son propre visage. Cette fois cependant, je craignais d'y apercevoir un autre visage, celui qui justifierait toutes mes peurs et les projetterait dans une réalité friable où je perdrais rapidement pied. Voilà, ça va donc, toutes ces peurs irraisonnées et ces silhouettes vont la pousser à des actions bien irraisonnées. Rideau.
Deuxième acte, deuxième tempête.
Deuxième partie. Rick, on fait la connaissance de Rick qui s'installe dans un camping à Fall Junction, près des Chutes Rouges, afin de terminer un roman qui a été entamé par un autre, Chris Julian. La situation est dès le départ tordue. En effet, on apprend que Chris écrivait, avait le talent, mais qu'il ne voulait pas être en avant, et Rick, en fait, il le payait pour être sa couverture, celui qui faisait les tournées de promo, les interviews, les photos. C'était l'écrivain, c'est le contraire du nègre, c'est l'écrivain de pâquerette, en fait, de pacotille. Chris est mort dans sa piscine. Eric doit continuer et terminer le dernier roman pour toucher l'argent du manuscrit. Il décide donc d'aller se retrouver dans le décor où Chris a situé une macabre découverte d'une femme assassinée. Il s'installe dans un camping, mais très vite, les orages se déchaînent la nuit, la paisible rivière se transforme en torrent, un premier cadavre est découvert. En même temps que de mystérieux bonshommes, allumettes, autre type de golem qui provoque chez Rick l'angoisse, la panique, et encore cette peur qui peut submerger le plus cartésien des esprits. On a affaire à une narration très perverse, dirais-je, qui sème habilement, diaboliquement, de petits indices, une ombre, un rocher, ou un silence inquiétant. À l'inverse, des bruits, les roulements de tonnerre, et encore plus anxiogène, le sourd grondement de la montagne qui semble vouloir ensevelir toute vie, du moins celle des protagonistes de ce roman.
J'imagine qu'elle va les faire se rejoindre, plus ou moins. Les deux histoires ne vont pas rester complètement...
Ah, les deux personnages principaux, non, mais les histoires vont peut-être un petit peu s'enchevêtrer, mais on laisse le lecteur le découvrir. Et donc, comme je le disais, lentement, tranquillement, André Michaud distille ces histoires dont on ne sait jamais la frontière. D'ailleurs, cette auteure canadienne, elle aime beaucoup les frontières, y compris les frontières linguistiques. Dont on ne sait jamais, disais-je, la frontière entre la réalité et l'hallucination. Il suffit parfois d'un pas, d'une phrase, pour basculer de l'autre côté du miroir, comme dirait un autre écrivain, une autre réalité peuplée de cauchemars. Moi, ce roman, ça m'a fait penser à Stephen King, dans l'habilité à nous épouvanter, mais aussi à une autre auteure moins connue que Stephen King, une femme, Shirley Jackson, qui était et qui reste le maître de la littérature gothique dans la première moitié du XXe siècle. En tout cas, de belles références pour vous persuader de la très grande qualité de ce roman. Donc, je le rappelle, Tempête au pluriel, l'auteur Andrea Michaud, et je ne le rappelle pas parce que je crois que je ne l'ai pas dit au départ, c'est un livre qui est publié chez Rivage Noir.
En grand format.
En grand format.
Oui, tu parlais d'ailleurs de Stanley Kubrick, de Shining. Il faut se rappeler que Shining, avant d'être un film de Stanley Kubrick, c'était un roman de Stephen King.
Exactement. Voilà pourquoi j'ai évoqué ces deux, à la fois le réalisateur et l'auteur. Et pour illustrer, alors là, on a vraiment choisi une musique pour illustrer ce roman, tout au moins pour
parler... Illustrer l'auteur, disons.
Voilà, pour parler d'Andrea Michaud.
Un des autres romans de... André Michaud s'appelait Lazy Bird.
Je crois que c'était son premier, mais je ne saurais l'affirmer.
Et donc, Lazy Bird, outre le roman d'André Michaud, c'était la dernière plage de la face B de l'album Blue Train de John Coltrane, paru en 1957 chez Blue Note. Bon, maintenant, il n'y a pas forcément de face B, puisque sur les vinyles ou même sur les sites de streaming, il n'y a plus de face. Mais néanmoins, nous allons écouter Lazy Bird de John Coltrane.
D'un endroit que beaucoup de gens ne savent pas situer sur une carte. Bercées par la douce mer Adriatique, les montagnes de la chaîne balkanique crèvent un ciel pétant de bleu sillonné par les sublimes oiseaux de proie qui ont donné son nom à ces terres. Schkipéri, le pays des aigles, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la langue. Le reste du monde lui préfère une autre appellation, l'Albanie, mondialement connue pour ce qu'elle a de plus mauvais. Nos ressortissants criminels, réputés parmi les plus durs, même si les Russes et les Italiens en ont beaucoup rajouté à ce sujet, nos filles, devenues chair fraîche pour la prostitution mondialisée, et notre régime communiste, qui a la singularité d'avoir été, en son temps, le plus fermé du monde.
Merci Corinne. C'était donc comme ça que commençait une nouvelle écrite par Danu Dankini en 2016, et qui porte le même nom que son roman paru tout récemment à la série noire, Les Aigles endormis. La nouvelle, en gros, était un peu l'ébauche de ce roman, dont elle partage en partie la trame.
Et comment tu as connu cette nouvelle ?
Eh bien, cette nouvelle, en fait, elle a obtenu le prix Anonymous, qui a été remis à l'époque à Annecy lors des pontons flingueurs. Si vous voulez, vous pouvez retrouver sur le site du trophée Anonymous, c'est trophée-anonymous.blogspot.com. Vous tapez ça dans Google et vous le retrouverez assez facilement, et même d'ailleurs pas Google, hein, tous les autres, ça marchera aussi. Mais revenons au roman donc, Les Aigles endormis, de Danu Dankini, paru à la série noire. L'Albanie, un pays que Arben, le narrateur, a quitté il y a 20 ans pendant la débâcle économique qui a suivi la fin de la dictature communiste et l'a plongé dans le capitalisme flamboyant.
Oui, un flamboyant.
C'est vraiment une façon de dire.
Voilà.
Il revient avec la ferme intention de se venger. Ça, on l'apprend dès les premières lignes, j'aurais pu les lire. C'était un peu plus musclé que ce que tu as lu, toi. Il revient avec l'intention de se venger de qui, de quoi. Le lecteur l'apprendra par bribes tout au long du récit. Une narration alternée. Au présent, en fait août 2017, Arben, son retour au village, la vengeance implacable, puis, dans le passé, l'enfance du même Arben, près de ses parents, prof, dans l'Albanie communiste, puis sa vie de jeune homme, puis d'homme, de mari, de père, et de petites mains de mafiosos locaux, jusqu'au drame qui va justifier la vengeance. Par petites touches, on va découvrir une quarantaine d'années de la vie de quelques personnages en Albanie, de la petite bande de copains d'école qui jouent sur la neige avec des skiffés de briques et de broc, jusqu'aux exactions des bandes mafieuses spécialisées dans la traite des femmes ou dans le trafic de drogue. Ces mafieux qui ont fait leurs premières armes pendant la période somme du communisme et de la dictature, où les petits trafics de l'époque servaient surtout à se procurer des denrées qui manquaient dans ce petit patelin paumé d'un pays cadenassé par un gouvernement corrompu. La corruption n'a pas changé beaucoup après le communisme. À part quelques têtes qui tombent, le pouvoir reste dans les mêmes mains, le dollar remplaçant la faucille et le marteau. Tandis que dans le ciel, les aigles volent toujours. Les gamins vont devenir des hommes, le trafic de cigarettes américaines devenir celui de la dope sous toutes ses formes, couplé à la fourniture de chair fraîche pour tous les marchés du proxénétisme européen, comme il le disait dans les premières lignes tout à l'heure. La misère fait naître des espoirs, mais transforme souvent les rêves en cauchemars. L'Albanie, un pays que l'on connaît mal, un pays qui véhicule beaucoup de clichés, et un pays que l'on apprend à connaître un peu à travers ce récit de Danu Danghini. Le roman est violent par moments, onirique parfois quand il décrit la nature, et effrayant quand il décrit la nature humaine. Les sentiments du lecteur envers le narrateur, que l'on ne peut pas vraiment appeler un héros, varient tout au long de la lecture. On a du mal à avoir de l'empathie, mais Danu Danghini n'essaye pas de nous le rendre vraiment sympathique. Le personnage est aussi ambigu que son histoire est violente, en fait. C'est un roman dur mais captivant. C'est un premier roman vraiment réussi, une écriture et une narration très bien maîtrisées, et ça nous permet la découverte d'un pays que l'on rencontre peu dans la littérature noire. Je crois qu'on en avait parlé d'un...
Oui, j'avais parlé il y a quelque temps d'un roman qui avait été paru chez Actes Sud, et qui était très intéressant, qui se situait quand même dans un passé, plutôt début du XXe siècle, et qui était très intéressant sur une petite région de l'Albanie montagneuse.
Malgré tout, une intrigue reste à la fin de la lecture. Pourquoi, dans les passages en flashback, donc dans le passé, les titres de chapitres, qui sont en langue albanaise, ne sont pas traduits? Certes, cela fait couleur locale, mais à part demander à Google ou un de ses concurrents de nous les traduire, cela reste un peu abscon. Même si cela ne gêne pas vraiment la compréhension du récit, ça fait un peu bizarre.
Justement, quand tu as évoqué le titre et les références de ce livre, tu n'as pas parlé de la traduction ?
Eh ben non, comme pour André Michaud, ce roman est écrit en français. On ne sait pas grand-chose sur la biographie de Danu Danghini, sauf qu'il est né à Montréal et qu'il a donc écrit ce roman français. Et dans la postface, dans les remerciements, apparemment, il est effectivement d'origine albanaise.
Ce prénom avec un
U tréma.
Un U tréma où il fait...
Une très belle couverture rouge avec, évidemment, des aigles schématisés, deux aigles, et des humains qui semblent se dessiner, ou pas d'ailleurs, si chacun voit un peu ce qu'il veut dans cette couverture. Donc, des aigles endormis de Danu Danghini à la série noire.
Et je dois m'excuser avant de terminer cette première partie d'émission, la prononciation certainement hasardeuse du nom du pays des aigles, ce qui périt parce que je pense que... Si quelques Albanais perdus sur la Côte d'Azur m'écoutent, ça a dû un peu leur écorcher les oreilles. Voilà, on se retrouve dans peu de temps.